J'aimerais prendre avec vous au deuxième livre des Rois, 2 Rois, chapitre 2. J'aimerais vous parler ce matin de deux hommes, un grand homme de Dieu, Élisée, et un pauvre, un aveugle, qui a ensuite cheminé à la suite de Jésus, Bartimée, qui sont deux exemples qui vont dans le sens de ce qu'on vit ce matin, de qui se lèvera pour le Seigneur, qui marchera pour lui, que le Seigneur attend et aspire qu'il y ait un peuple qui se lève vraiment pour l'adorer en esprit, en vérité. Il veut, comme on l'a entendu, que ce soit du vécu, que ce soit des vies qui se donnent concrètement et vraiment, comme de nombreux témoins dans la Bible, comme on l'a entendu aussi, Abraham, notre père, il est notre père dans la foi parce qu'il a obéi, parce qu'il a été jusqu'au bout de ce que Dieu lui demandait. Qu'on puisse aussi avoir la grâce d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous demande. Amen. Donc je lis au deuxième chapitre du deuxième livre des Rois, cette histoire de l'enlèvement d'Élie au ciel. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amen. Ce récit, il nous parle de plusieurs choses, mais j'aimerais mettre en avant la détermination, le cœur d'Élisée. Et je crois, vous savez, dans la Bible, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur dans la parole de Dieu. Et souvent, la Bible, elle se répète. Et quand elle se répète, c'est pas pour rien qu'elle se répète. Et là, il aurait suffi une fois à nos esprits humains pour comprendre que Élisée savait qu'Élie allait être enlevé au ciel et puis qu'il resterait avec Élie jusqu'au bout. Mais pourtant, la parole de Dieu nous raconte à deux, voire trois reprises la même chose. Et à deux, voire trois reprises, Élie dit aussi à Élisée, « Laisse-moi aller, reste ici, je dois aller à tel endroit, je dois aller à Jéricho, je dois aller à Bethel, je dois aller au Jourdain. » Mais Élisée, il l'a suivi jusqu'au bout, Élie. Il n'y avait en aucune manière la possibilité qu'Élisée lâche et qu'Élisée reste là où Élie. Même Élie, homme de Dieu, qui lui disait « Reste là », il ne lui obéissait pas, il voulait aller jusqu'au bout avec lui. Et c'est ce qu'il dit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et dans nos vies, à l'image de l'histoire de Bartimée qu'on va aussi lire, beaucoup la connaissent, mais est-ce qu'on veut écouter ce qui nous dit « reste ici parce que je dois aller ailleurs » ou est-ce qu'on va avoir cette détermination, cette volonté à l'image du cœur d'Élisée d'aller jusqu'au bout ? Et j'ai lu ce récit quasiment jusqu'au bout pour voir qu'à la fin, Élisée, une fois seul, demande à Dieu, il dit, mais où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Je veux ce Dieu-là. Hein? Comme il le dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élie demande à Élisée, j'aimerais une double portion de ton esprit. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais il l'a obtenue pourquoi? Parce qu'il a persévéré. La vie avec le Seigneur, c'est pas une chose facile. C'est difficile aujourd'hui de vivre avec le Seigneur. Mais Dieu, comme on le voit à la croix du Golgotha, ça n'a pas été facile pour lui de donner sa vie. Il a dû faire couler son sang jusqu'à la dernière goutte. Il a dû mourir comme le dernier des derniers pour nous donner sa vie, pour qu'on soit sauvés. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, et la Bible ne fait que parler de ça, et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes victimes d'un monde où nous sommes les centres de nos vies. Et c'est pourquoi on passe à côté de la plus grande des leçons qui part de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en particulier avec Abraham, de dire, si tu veux suivre le Seigneur, ça va te coûter. Tu vas devoir payer le prix. Comme on dit des fois, il n'a jamais dit que ce serait facile, mais il a dit que ce serait digne. Digne de quoi? Digne de la vie éternelle. Digne du royaume de Dieu. Et comme il le dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on veut investir? Où est-ce qu'on veut vraiment mettre notre trésor? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si notre trésor, il n'est pas dans le ciel, notre cœur, il n'est pas dans le ciel, vous voyez? Il faut qu'on puisse investir tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, à l'image d'Élisée, à la suite d'Élie, pour le règne de Dieu, pour Jésus-Christ. Et c'est que ça, le chemin des disciples, de vrais disciples. Comme je l'ai prié, Dieu n'a que faire de chrétiens du dimanche. Dieu veut une épouse, et une épouse, elle n'est pas une épouse seulement 2 heures le dimanche, elle est une épouse 24 heures sur 24. Elle a un cœur, comme nous le parle cette parabole des 10 vierges, avec ses 5 vierges sages. Elle a de l'huile dans sa lampe, en permanence. Il n'y a pas un moment donné où elle en manque, et puis il faut qu'elle aille en acheter. Cette huile se renouvelle. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Mais pour ça, il faut qu'on soit fidèle au poste. Il faut que Dieu trouve en nous la disposition de cœur, comme elle était en Élisée, d'aller jusqu'au bout et de dire « L'Éternel est vivant et je ne vais pas écouter même des gens qui m'entourent, même peut-être des gens même spirituels qui vont peut-être nous dire « Non, moi je pense que le Seigneur te montre autre chose, etc. » Il faut que nous, avec Dieu, on puisse avoir cette conviction qu'avait Élisée, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être soumis les uns aux autres. Ça doit être le cas, mais en même temps, on devra rendre compte devant ce tribunal de Christ de nos vies personnelles. On pourra pas dire oui, mais il m'avait dit que je devais pas faire ça à ce moment-là, alors je l'ai écouté. Élisée, il a pas écouté Élie. Quand bien même Élie était ce si grand prophète, il a dit si l'Éternel est vivant et que toi tu vis, j'irai jusqu'au bout. Et c'est ça qui lui a fait donner d'obtenir cette chose difficile. Et la vie nouvelle, c'est une grâce de Dieu. Une vie libérée du péché. Une vie remplie du Saint-Esprit. Aujourd'hui, parce que nous sommes des êtres de chair, parce que nous vivons dans une génération perverse et corrompue, si Pierre parlait d'une génération perverse et corrompue il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, Pierre? Qu'est-ce que dirait Pierre aujourd'hui? Nous sommes les fruits de cette génération, c'est pourquoi c'est une chose difficile que de vivre cette vie authentiquement nouvelle. Mais c'est possible, mais pour cela, il faut qu'on se laisse enseigner par la parole de Dieu ce matin et par cette histoire d'Élisée avec Élie. Pourquoi? Parce qu'il a pu obtenir cette chose difficile en raison de sa persévérance. Et Élie lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, à quel moment? Pas à Bethel, pas à Jéricho, mais une fois qu'ils avaient passé le Jourdain. Une fois qu'Élisée avait été au bout, là Élie a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et après, il a vu la bonté, il a vu la fidélité, il a vu la grâce de Dieu en disant, où est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie? Et il a frappé le manteau, et la grâce de Dieu a ouvert le Jourdain. Et ensuite, vous le lisez dans la suite du récit des rois, la grâce de Dieu a été manifestée au travers de la vie d'Élisée. Il a fait des grands miracles. Il a eu cette double portion de l'Esprit qui était sur Élie. Mais pourquoi? Parce que Dieu, à l'image d'Abraham, notre père, Dieu a vu son cœur, Dieu a vu sa persévérance, Dieu a vu sa volonté. Et aujourd'hui, les disciples de Christ, comme ils ont été dans les siècles passés, hein, il y a des gens qui sont morts pour qu'aujourd'hui on puisse lire la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, en Chine, en Inde ou dans d'autres pays où les chrétiens sont persécutés, il y a des gens qui meurent parce qu'ils s'arrachent juste une page de la Bible, vous voyez? Et pourquoi est-ce que nous, on aurait un traitement de faveur? Pourquoi est-ce que nous, on porte le même nom qu'eux? Comme le disait Pierre, il écrivait à des gens qui étaient dans la persécution, il disait, rassurez-vous parce que vos frères dans le monde entier vivent ça, vivent les mêmes persécutions que vous, vivent les mêmes tourments. Mais aujourd'hui, c'est comme si on a deux catégories de chrétiens. On a comme des chrétiens un petit peu entre deux, un peu en vacances, et on a des chrétiens qui payent le prix. Et on a aussi nos pères dans la foi, tous ces témoins de la réforme, tous ces premiers martyrs, tous ceux, les évangélistes, tous ceux qui ont écrit quasiment sans exception, à part Jean qui est mort, alors bon, qu'il était tout seul sur une île, mais tous ont été décapités, ils ont été tués, lapidés, comme le dit Hébreux 11, sciés, torturés, eux dont le monde n'était pas digne. Est-ce que le monde est digne de nous ou est-ce qu'il n'en est pas digne? Je crois que notre vocation, c'est qu'il n'en soit pas digne parce que nous sommes citoyens des cieux. Nous aspirons au royaume de Dieu. Et c'est pourquoi, si on porte le nom de chrétien, c'est quelque chose qui va de soi, qui devrait aller de soi, à l'image de cette détermination qu'avait Élisée de servir Dieu et de le vouloir jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout. Il est allé jusqu'au bout. J'aimerais prendre avec vous Marc 10 maintenant pour parler de Bartimée, qui est un autre homme, mais qui a eu la même rage dans son cœur de suivre Jésus, d'obtenir quelque chose de Christ, de vouloir Jésus-Christ. Marc chapitre 10, versets 46 et suivant. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ô combien ce récit est fort, est grand et a de quoi nous exhorter, exhorter nos cœurs. Bartimée, il n'avait rien pour plaire à l'image de Jésus sur la terre qui est venu comme le serviteur de tous. Il n'avait rien, il n'avait pas de qualité, il avait même plutôt un gros défaut, c'est qu'il était aveugle et qu'il était pauvre et qu'il était dans la rue, vous voyez. Mais Dieu, et c'est cela le royaume de Dieu, comme il le dit, les derniers seront les premiers, il inverse les choses. Le classement dans le royaume de Dieu, c'est pas notre classement. Jésus en parle souvent. Il dit, si vous êtes le serviteur de tous, si vous êtes le plus petit, le plus humble, alors vous serez le plus grand dans le royaume de Dieu. Mais nous, on a été formatés avec une pensée qui est contraire à cela, où nous sommes grands par nous-mêmes, par nos propres forces, parce que nous sommes, et nous ne laissons pas être grands par la grâce de l'humilité que Dieu veut donner à nos cœurs. Et ô combien c'est ce qu'on voit dans tous ces pays pauvres, ô combien ils sont bénis du salut d'une manière si extraordinaire, parce qu'ils ont ce cœur de Bartimée, de vouloir qu'une seule chose, Jésus-Christ, et de refuser de penser aux autres choses. Ils ne sont pas conditionnés comme nous sommes conditionnés aujourd'hui. C'est pourquoi on a, je crois, tant de peine à vraiment vivre une vie du royaume, une vie qui porte du fruit pour le Seigneur. Parce que le fruit du Seigneur, c'est pas le nôtre, c'est le sien. Parce que sinon, la gloire, elle va revenir à nous, vous voyez. Elle a besoin de revenir à Dieu. Et on a besoin de lâcher. On a besoin de reconnaître qu'on est pauvre, on est aveugle comme Bartimée. Et on a besoin de crier vers Jésus. Mais après, comme dans cette histoire de Bartimée, il y a peut-être des gens, mais plus que des gens extérieurs, même des voix à l'intérieur de nous, des pensées, des raisonnements de ce monde et de ce siècle qui vont nous rabrouer, qui vont nous faire taire, qui vont essayer d'étouffer cette voix, étouffer ce cri qui est en nous d'aspirer à vivre, comme on l'a lu dans ce psaume 84. Ils poussent des cris vers le Dieu vivant. Ils aspirent à ces autels de l'Éternel. Ils aspirent vers ces demeures. Et on va comme se laisser étouffer par le diable, mais par notre chair aussi, par notre paresse, par ce monde qui nous entoure. De relativiser, dire « Non, je ne sais pas quelles pensées peuvent être en chacun de nous, mais on va avoir tous ces voix, on va avoir tous ces combats, en nous, à l'extérieur de nous, dans nos familles, nos amis. » Et est-ce que comme Bartimée, est-ce qu'il s'est arrêté de crier? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, lui dire « Mais tais-toi, il n'en a rien à faire de toi, Jésus. » C'est ça qu'il lui disait en gros. Mais est-ce qu'il s'est tu? Non, il a dit « Mais il criait beaucoup plus fort. » Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta. Il faut qu'on puisse vouloir arrêter Jésus, vous voyez, aussi dans nos vies. Comme Élisée, il a voulu arrêter Élie, il a voulu le suivre. Il ne s'est pas laissé convaincre par ce que lui disait Élie. Il a dit, non, moi je vais aller jusqu'au bout. Moi je veux aller jusqu'au bout. Et est-ce que Dieu va trouver cette détermination en nous? Comme on l'a vu dans ce temps de prière, quand on fait face à la sainteté. Est-ce qu'il n'y a pas en nous tout qui peut lâcher? Est-ce qu'il n'y a pas en nous toutes les considérations de ce monde, de nos raisonnements, de notre chair, de notre paresse, de tous ceux qui nous entourent? Pour voir et discerner, on va finir par cette parole, que le temps est proche, que le temps est court. Il est le temps d'avoir de l'huile dans nos lampes. Il est le temps, justement, d'être ces Bartimées et de faire que Jésus s'arrête dans nos vies et qu'il vienne. Et à l'image d'Élie qui a dit à Élisée, Jésus nous dise, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais quand on crie de cette manière-là, ça va pas être une simple bénédiction égoïste, vous voyez. Il va faire pour nous, et je dirais plus encore par nous, et c'est là notre joie, que de le servir, que de lui être utile entre ses mains, il va porter son fruit. Et quelle joie on a! On n'a pas de joie plus grande, vous savez, que de voir des âmes se donner à Christ, de voir le fruit de l'éternel qui est porté dans les vies. C'est pour ça qu'on est fait, c'est pour ça qu'on est créé, c'est pour le royaume de Dieu. Alors, si on veut être ouvrier à sa vigne, à sa moisson, on a besoin justement, comme Bartimée, de jeter ce vieux manteau, vous voyez. On le dit, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Mais notre grand malheur, notre grande malédiction, c'est que nous sommes comme ces riches dont Jésus parle. Il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et on est trop riche de nous-mêmes. On est trop riche de ce monde. On est trop riche de notre chair pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Et ça nous fait penser à ces paroles où lorsque Jésus parle, justement, après avoir parlé des riches, les disciples qui le suivent disent, mais alors, qui peut être sauvé, Seigneur? Qui sait qui peut être sauvé? Et comme le dit Jésus, il dit, pour l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Et si on veut vraiment être sauvé, si on veut vraiment porter du fruit pour le Seigneur, si on veut vraiment avoir la joie, être rempli du Saint-Esprit tous les jours de notre vie et être cette digne épouse dont Jésus-Christ a besoin dans ces temps de ténèbres et d'obscurité, il nous faut alors justement, comme Bartimée, jeter ce manteau, faire taire toutes ces voix et nous lever d'un bond et faire que Dieu rende possible ce qui nous est impossible parce que nous sommes maudits, on est collé à cette terre, on a les pieds cloués au sol, frères et sœurs, et on a besoin justement de laisser la grâce de Christ, l'Esprit de Dieu, comme il nous a parlé dans ce temps de prière, comme il nous parle encore, je l'espère, par ses paroles ce matin, par ce culte, eh ben, qu'on soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on mette ces choses en pratique, pour, comme le dit Jacques, on soit heureux dans toute notre activité, qu'on soit heureux de glorifier le nom du Seigneur dans nos vies, et d'être cette épouse qui ne ressemble pas à celle que Jésus décrit dans cette parabole des vierges, et qu'on soit plutôt justement pas de ceux qui ont l'amour qui se refroidit, mais qui ont l'amour qui se renouvelle et qui ont besoin de cette double part de l'Esprit, qui ont besoin de cette double part de l'amour de Dieu et du feu de Dieu dans leur cœur tous les jours de leur vie pour nous lever d'un bond et venir vers Jésus et demander à Jésus, bien sûr que là Jésus a guéri cet aveugle, il n'y a pas d'aveugle aujourd'hui parmi nous, mais qui nous donne la vue spirituelle, qui nous donne la vue de considérer nos priorités, de considérer la réalité du royaume de Dieu qui vient, et alors que ça mette en nous un feu indicible dans nos cœurs, de tout lâcher, de jeter ce manteau, de le déchirer comme Élisée a déchiré ses habits, et qu'il a pris le manteau qu'Élie avait lâché, et qu'il a été ouvrir les eaux du Jourdain grâce à ce manteau, grâce à la grâce de Dieu. Est-ce qu'on va aussi vouloir récupérer ce que Dieu nous donne, vouloir nous saisir de ce que Dieu veut faire dans nos vies, pour ensuite que les Jourdains devant nos vies s'ouvrent, et qu'effectivement nous rentrions dans toutes les œuvres que Dieu a préparées. Et mon cœur a envie de vous exhorter ce matin que le temps presse. Le temps se fait très court. Romains 13, verset 11 et suivant. Tout ce que le Seigneur nous dit ce matin, Paul dit, cela importe ce qu'on a entendu ce matin, ce qu'on vit aujourd'hui, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, dépouillons-nous donc de ce manteau et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il nous faut vouloir marcher en plein jour, frères et sœurs. Et marcher en plein jour, ça veut dire marcher à l'image de Jésus-Christ sur la croix. Ça veut dire qu'il n'a rien gardé pour lui. Il n'a pas caché des choses, Jésus. Il a été vrai jusqu'au bout. Il s'est laissé dépouiller jusqu'au bout. Et nous aussi, on a besoin d'aller devant le Seigneur. On a besoin de se laisser reprendre. On a besoin de se laisser émonder, comme en plein jour. Vous voyez, les ténèbres, eh ben, on va vouloir encore cacher des choses. On va en vouloir encore retarder, repousser des choses que le Seigneur veut faire dans notre vie. Repousser ce que Dieu aimerait peut-être nous dire encore aujourd'hui. Eh ben non, qu'on puisse marcher comme un plein jour. Parce que, comme il le dit, la nuit est avancée et le jour approche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour du retour du Seigneur, il approche. La nuit, elle est avancée. Et certains d'entre nous, peut-être, viennent de se convertir. D'autres sont convertis depuis bon nombre d'années. Eh ben, le salut, dans toute l'histoire de Dieu, que ce soit par rapport à notre conversion ou par rapport à toute l'histoire de l'humanité, chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche du retour du Seigneur. Et on ne peut pas galvauder cette journée. On ne peut pas galvauder cet aujourd'hui. Pour ça que l'Épître aux Hébreux dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il ne faut pas endurcir votre cœur. Il ne faut pas endurcir votre cœur. Mais qu'au contraire, justement, ça importe d'autant plus que vous ayez un cœur très ouvert. Parce que le temps dont nous sommes, c'est un temps avec une heure précise et une heure qui avance. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et que le Seigneur puisse nous bénir dans cela, dans cette démarche-là, dans cette rage pour le royaume de Dieu. Jésus a dit, à l'image de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et c'est une question, frères et sœurs, de vie ou de mort. C'est une question d'éternité. C'est une question, justement, de qu'est-ce que nous allons amener devant Dieu. Est-ce que nous allons arriver devant Dieu les mains vides ou est-ce que nous voulons arriver devant Dieu avec des mains pleines? Pleine d'une vie donnée, d'une vie sacrifiée à la suite de Jésus, d'un désir comme Élisée avait, comme Bartimée, de crier encore plus fort et de dire « L'Éternel est vivant et je ne te quitterai point et j'irai jusqu'au bout avec toi. » Une dernière parole, toujours dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, et je conclue par cela. Romains 8, verset 12 et suivant. Comme le disait Romains 13, « Il ne faut plus avoir soin de la chair » pour en satisfaire les convoitises. Il faut voir que cette chair, elle nous emmène dans le néant, elle nous emmène à la ruine, elle nous emmène droit dans le mur. Et c'est pourquoi Paul dit un petit peu plus avant, dans Romains 8, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voyez, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, il n'y a pas de point final à la phrase, si toutefois nous souffrons avec lui, si toutefois nous avons part à ce cri de Bartimée, si toutefois nous avons part au fait de faire taire ces voix qui s'élèvent en nous, alors oui, nous allons être glorifiés en Christ. Mais si nous laissons ce brouhaha, si nous laissons la tiédeur remplir nos vies, alors nous n'aurons pas de part à l'héritage de Dieu et de Christ. Et on a besoin justement de plus être redevable à la chair, de plus marcher selon ses convoitises. Elle est corrompue cette chair, mais qu'on soit redevable à qui? À Dieu, à l'agneau de Dieu, qui est le seul à avoir payé pour nous. Il n'y a que Christ auquel on est redevable de quelque chose. Il n'y a que Christ qui mérite qu'on donne tout pour lui. La chair, elle ne mérite pas qu'on donne quoi que ce soit pour elle. Vous voyez? Rien du tout. Mais pour le Seigneur, on doit tout donner. Et c'est pourquoi il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Eh bien, que par l'Esprit, nous puissions n'être plus redevables à la chair, mais être redevables et vivre d'un cœur à 100% pour le Seigneur. Encore de nous consacrer en ce jour, que le Seigneur nous bénisse, nous encourage à la suite d'Élisée, à la suite de Bartimée, pour que nous puissions hériter avec Christ de ce royaume, de ces récompenses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen.